Au 01 45 24 7000, le numéro qu'a composé Jean-Jacques de Nantes. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Monsieur Cohen, bonjour Madame Cosse.
Bonjour.
Je suis actuellement à Nantes où je participe au congrès de l'Union sociale pour l'habitat. J'y représente les intérêts des locataires du plus grand bailleur social français, 122 000 logements, en tant qu'administrateur locataire au titre de la CLCV. Hier, vous étiez présente aux côtés de Manuel Valls, qui a été sifflé par des représentants des locataires au sujet de la baisse modulée des APL aide au logement. Voilà ma question donc. Êtes-vous favorable à cette baisse, voire cette suppression des APL à partir de 30 000 euros de patrimoine, qui va lourdement pénaliser le locataire en HLM?
Merci pour cette question Jean-Jacques. Emmanuel Cosse.
Écoutez, aujourd'hui, les aides au logement, ça représente une dépense de 18 milliards d'euros et cela aide 6,5 millions de personnes. L'an dernier, dans la discussion sur la loi de finances, les parlementaires ont décidé de plusieurs mesures d'économie après un rapport assez important qui visait non pas à faire une économie massive pour tous les bénéficiaires, mais de cibler sur certains allocataires et de remettre de l'équité. Il y avait plusieurs mesures. Faire baisser une dégressivité de l'allocation logement pour les loyers excessivement chers, parce qu'en fait, il y a un effet inflationniste des APL et on voit que des gens supportent des loyers très chers parce que l'APL vient les compléter. Et à partir du 1er octobre, le fait que les nouveaux entrants dans le dispositif doivent déclarer s'ils ont un patrimoine à côté de leurs revenus. Patrimoine mobilier ou immobilier, et a été repris les critères du RSA et de la prestation autonomie.
Parce qu'il y avait des abus.
Parce qu'il y a des personnes qui ont des patrimoines immobiliers qui ont un petit salaire et bénéficient d'une APL, c'est-à-dire gagnent le SMIC, mais ont un patrimoine immobilier extrêmement important. Et aujourd'hui...
Donc ça veut dire qu'ils ont des revenus locatifs
Ou pas, en tout cas ils ont un patrimoine. Ils n'ont peut-être pas de revenus de locatifs, mais ils ont un patrimoine. Aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas demandées. Et moi, je le dis très clairement, je partage, y compris ce qu'a développé Thomas Piketty sur les inégalités sociales aujourd'hui qui sont liées à la différence de richesse liée au patrimoine. Aujourd'hui, dans nos 6,5 millions de bénéficiaires des APL, il y en a très peu qui ont un patrimoine. Mais je pense que les personnes qui en ont un doivent le déclarer. Et cette mesure d'économie, parce qu'il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites, elle ne concerne pas les personnes âgées qui sont en EHPAD. Elle ne concerne pas les personnes handicapées qui, par ailleurs, ont pu avoir un patrimoine de côté pour faire face à leur handicap. Et les personnes qui ont, par exemple, auraient un livret A à 30 000 euros, je rappelle que l'encours moyen du livret A, c'est 4 000 euros. Si une personne avait un patrimoine de 30 000 euros qu'elle le déclare, cela rentre dans le calcul de son APL, cela ne lui fait pas supprimer son APL.
Ça, c'est pas possible parce que le livret A, le plafond est à 22 000, je crois.
Mais c'est 30 000 tout livret confondu.
Ah ben d'accord.
Donc voilà, c'est une mesure d'équité. Moi, je préfère qu'on fasse une mesure d'économie ciblée parce que c'est une dépense importante, 18 milliards 300 millions cette année, plutôt que de mettre un coup de rabot pour tout le monde, où là, ce sont encore les plus faibles qui payeront plus cher.
Question liée, celle de Christian qui nous appelle de Rennes. Bonjour Christian.
Bonjour, merci de prendre ma question. Je voudrais poser une question à Emmanuel Cosse. Est-elle favorable, comme le préconise le Conseil d'analyse économique, Thomas Piketty, les économistes attirés, de taxer les loyers fictifs?
De taxer les loyers?
Les loyers fictifs ou implicites.
Les loyers fictifs ou implicites.
Autrement dit, les loyers que les propriétaires occupants de leur logement n'ont pas à payer. Et les experts du Conseil d'analyse économique ont proposé cela. Quoi. Alors, est-ce qu'elle est d'accord également chez Eurotechnologie Les Verts? Il y a également Cécile Duflot, Jean-Vincent Placé, qui sont favorables au paiement, mais ils ne tiennent pas compte de la taxe foncière, qui est déjà un impôt.
Bien sûr, c'est l'idée que les propriétaires occupant leur propre logement pourraient payer une taxe ou un impôt particulier. Emmanuel Cosse.
C'est un débat, évidemment, y compris que j'ai mené quand j'étais chef de parti, que j'ai construit un programme sur le logement. C'est un débat extrêmement important aujourd'hui de savoir comment est-ce que l'on remet de l'équité par rapport justement aux questions de patrimoine et donc se pose la question, par exemple, de taxer le loyer fictif. Je vais vous dire les choses franchement. Aujourd'hui, il me semble que pour développer l'accès au logement et répondre à la priorité qui est un accès à un logement abordable pour tous, il faut déjà commencer par les construire et ensuite, à mon avis, par remettre de l'équité sur la production, y compris... Il y a le logement social, mais on manque aussi de logements privés à coût abordable. Et aujourd'hui, c'est ça la première nécessité. Et ensuite, je pense que si demain, il y a une réforme fiscale d'ampleur, La question du patrimoine devra faire l'objet d'une question globale. Mais ce n'est pas uniquement sur cette mesure. Et d'ailleurs, quand nous proposions les questions sur les loyers fictifs, c'était inséré dans une réforme fiscale beaucoup plus importante où on remettait de l'équité par ailleurs.
On doit préciser que ce n'est pas une idée absurde ou utopique. C'est une taxe qui a existé
absolument.
En France jusqu'en 1964, me dit-on, date à laquelle Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, l'avait abrogé pour relancer l'accession à la propriété des Français. Voilà pour ces précisions. Benjamin nous appelle de Saint-Ouen. Bonjour.
Oui, bonjour. Avant toute chose, ce qui me fait marrer, c'est que Mme Coste parle d'équité, d'équité et d'équité.
Oui.
C'était le grand discours de M. Sarkozy, qui était lui-même aussi pour l'équité, donc ça, c'est formidable. Mais voilà, au sujet des migrants de Calais, elle veut les mettre à Tours ou ailleurs, elle veut déplacer des migrants, alors qu'ils veulent tous aller en Angleterre, elle veut les mettre à Tours ou ailleurs. Est-ce qu'elle pense vraiment qu'un migrant qui a fait 12 000 km pour arriver en France, qui va aller en Angleterre, va être content d'être à Tours? Je suis pas sûr.
Merci Benjamin. Emmanuel Cosse,
je posais. Je vais vous dire sincèrement, moi je trouve que parler ainsi de personnes qui ont risqué leur vie, et certains et beaucoup en sont morts, de faire cette traversée de la Méditerranée et de vivre aujourd'hui dans la boue, dans le froid et sous l'exploitation de passeurs, sincèrement, c'est pas une manière de parler ainsi de ces personnes en difficulté. Aujourd'hui, on a une responsabilité, c'est mettre des gens à l'abri, de les mettre dans toute la France. Et je vais vous le dire, toutes les villes de France aujourd'hui peuvent les accueillir. Elles ont aussi des structures sociales. Les répartir sur l'ensemble du territoire national, c'est aussi leur donner les moyens de présenter leur demande d'asile. Et j'aimerais qu'on arrête de parler tout le temps à la place des migrants.
Alors,
quand
question...
on discute avec eux, il y en a qui ont en effet un chemin de vie. Ils veulent absolument aller en Angleterre pour un certain nombre de raisons. Il y en a d'autres qui ne savent même pas où ils sont. Ils arrivent à Calais, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y en a d'autres qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir être insérés dans une société. Et d'autres, je vais vous le dire, qui sont aujourd'hui en France et qui espèrent un jour revenir dans leur pays pour retrouver là où ils ont fait leur vie. Et aujourd'hui, il est quand même inadmissible que l'on parle de ces gens, je l'ai entendu, comme des gravats, comme de la poussière. Parce que c'est ça aujourd'hui ce que dit une partie de la classe politique. Il me semble qu'à un moment, il faut de la dignité, de la lucidité et tout simplement regarder les choses telles qu'elles sont.
Question complémentaire de Sandrine depuis le Val d'Oise. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour. Bonjour Madame Coste et merci, vraiment merci beaucoup pour votre remarque que je partage totalement. Il y en a marre. Donc moi, je ne parlerai pas de migrants. Je voudrais parler de personnes qui vivent dans cette jungle, enfin qui survivent. Je m'appelle donc Sandrine, je suis citoyenne en fait. Je ne suis même pas bénévole, je fais partie d'aucune assos. Mais je me suis engagée, je suis allée à Calais, j'accompagne des personnes ici réfugiées dans ma région. Et en fait, j'aimerais alerter le gouvernement, mais aussi mes compatriotes, vous autres, les citoyens, sur ce qui se passe dans notre pays. Et je pense que ces gens-là, parce que voilà ce qui se passe, elles arrivent dans des structures d'accueil, des CAO, des CADA, on leur donne leur demande d'asile, ok. Et puis après, ces personnes, elles sont un peu livrées à elles-mêmes en fait. Elles se retrouvent un peu à la rue parce qu'il faut qu'elles quittent le dispositif, qu'elles trouvent un appart, c'est difficile, on l'a déjà dit, et un boulot, appréhendre la langue. Et finalement, beaucoup, que moi je côtoie, finissent par dire... Bon ben, il y a rien à faire pour nous ici, on va retourner à Calais. Donc c'est un peu insoluble, c'est un problème qui dure depuis des années. Et je pense que la mobilisation, excusez-moi, elle est à faire de votre part le gouvernement et également de notre part les citoyens, parce que je pense que voilà, on a beaucoup à s'apporter, que c'est pas si compliqué que ça, d'accompagner quelqu'un, d'être un peu présent, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Merci Sandrine. Emmanuel Cosse.
C'est très clair que déjà le gouvernement ne fera pas tout seul. Et aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui s'engagent auprès de ces réfugiés. Et en effet, derrière la mise à l'abri, on a des personnes, une fois qu'elles obtiennent leur statut de réfugié, qui ont du mal, d'une part, à se rentrer dans la vie professionnelle, et y compris malgré les cours de français qui leur sont donnés, c'est extrêmement difficile, puis s'insérer dans le logement et avoir aussi un réseau d'amitié, parce que beaucoup de personnes sont extrêmement seules. C'est notamment pour cette raison que j'ai lancé au mois d'août un appel à projet pour l'hébergement des réfugiés chez des citoyens, avec un soutien aux associations, avec la volonté d'aider les associations qui travaillent là-dessus. Un objectif de loger 1000 personnes dans ce cadre-là. Nous avons eu des réponses pour à peu près 1500 places d'hébergement. Donc nous allons le faire. Et par ailleurs, au-delà de la mise à l'abri, aujourd'hui, nous travaillons à plusieurs ministres sur la question de l'insertion professionnelle. professionnelle, de la reconnaissance des diplômes, des étudiants qui sont arrivés et qui sont en rupture de cursus universitaire, mais également de la maîtrise du français, qui est le premier obstacle pour beaucoup pour s'insérer dans notre pays.
On a quelques questions politiques pour vous, Emmanuel Cosse, Muriel de Strasbourg, qui vous demande quel candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts soutiendra-t-elle ou soutiendra-t-elle un candidat socialiste à la primaire et si oui, lequel ?
Vous savez, sur ce sujet, j'ai toujours été constante. J'étais favorable à une primaire de la gauche et des écologistes qui avait été notamment lancée par Yannick Jadot et Daniel Cohn-Bendit. J'ai espéré qu'Europe Écologie Les Verts en fasse partie, ça n'a pas été leur choix. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas m'inscrire dans la primaire des écologistes qui est, me semble-t-il, un gâchis parce qu'en fait, c'est une primaire qui où les gens discutent entre eux et on n'est pas sur le débat, justement, avec le reste de la gauche. Moi, je m'inscrirai dans la primaire portée par la Belle Alliance Populaire et le Parti Socialiste et je soutiendrai, comme j'ai déjà dit au premier tour, François de Rugy.
Vous soutiendrez François de Rugy,
député écologiste de Loire-Atlantique,
qui a l'intention de se présenter.
Candidat.
En janvier.
Absolument.
Thomas Legrand ? Non ?
J'avais une question sur le thème d'avant.
Ah bon, sur le thème d'avant, non, sur la politique, sur la présidentielle, oui.
François de Rugy, on va attendre qu'il se présente. On va attendre d'abord que la primaire de la Belle Alliance
se mette en place.
On n'en connaît pas encore les règles.
Oui, vous avez raison. Hein. Allez, hop, on tourne la page.
Touquet.
Très bien.
Vous êtes temps ou pas ? Les accords du Touquet.
Oui, vous avez raison.
Parce que, pour revenir sur le sujet d'avant, une partie de la droite, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, disent qu'il faut revenir sur les accords du Touquet. C'est-à-dire que la frontière ne soit plus la Manche, donc en France, mais en Angleterre, et donc envoyer une partie des migrants en Angleterre. Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que c'est une solution ?
Sincèrement, parler de dénoncer les accords du Touquet, ça invite à beaucoup de personnalités à droite de se poser la vraie question de qu'est-ce qu'il faut faire pour de vrai, y compris au niveau européen. Parce qu'avant les accords du Touquet, il se passait quoi ? Il n'y avait pas de migrants à Sangatte ? Il n'y avait pas de migrants à Calais ?
Enfin, c'était pas la même ampleur.
Mais l'ampleur, elle n'est pas liée aux accords du Touquet. L'ampleur des migrants présents aujourd'hui en France, elle est liée au fait qu'il y a des millions de personnes qui quittent Alep, qui quittent la Syrie, qui quittent le Soudan, qui quittent la Somalie. Qui quitte l'Égypte, on le sait très bien, qui quitte la Libye.
Donc, déplacer la frontière ne serait pas une solution.
Mais la frontière, il restera toujours la Manche entre la France et l'Angleterre. Et si le sujet, c'est de faire en sorte que des gens se noient dans la Manche après avoir risqué de se noyer dans la Méditerranée, je pense que c'est bien parti avec ces telles dénonciations. Aujourd'hui, il y a une question, c'est comment la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe s'inscrivent dans une vraie politique d'accueil des réfugiés sur leur territoire. Ça veut dire aussi, et là-dessus, je pense que très clairement, l'Europe n'est pas au niveau. Et on le voit notamment avec la position extrêmement dure des pays de l'Est, y compris sur l'accueil des gens qui relèvent de l'asile. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut avoir une négociation avec la Grande-Bretagne. Et ce n'est pas parce que la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit qu'elle va s'exonérer de ses responsabilités. Mais la première priorité, c'est le regroupement familial. Il y a aujourd'hui des enfants et des mineurs qui sont en France, dont les familles sont en Angleterre, et qui mettent des mois à simplement commencer à avoir une procédure.
Vous avez des réponses des autorités britanniques ?
C'est Bernard Cazeneuve qui va les chercher. Il en a eu, mais ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est qu'elle soit accélérée et que surtout les Britanniques prennent plus de personnes qui relèvent du regroupement familial.
Emmanuel Cosse, ça va continuer dans 35 secondes. On va accueillir Augustin Trapenard et retrouver Nicole Ferroni.